Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Isolde Sicard, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drion et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
L'actualité écho décryptée par des acteurs, des chercheurs, des journalistes, c'est tous les vendredis à 14h dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Aujourd'hui, alors que la fusion entre Alstom et Siemens déraille, faut-il créer des géants européens ? Le mariage avait été annoncé en grande pompe il y a un an et demi. La fusion du fleuron de l'industrie ferroviaire française et du conglomérat allemand devait donner naissance à un Airbus du rail, capable de rivaliser avec ses concurrents chinois ou américains. C'était sans compter les résistances de la Commission européenne, qui redoute l'apparition d'un quasi-monopole en Europe, une position qui, selon Bruxelles, étoufferait la concurrence européenne et nuirait à la fois à l'innovation et aux consommateurs. Alors les règles de la concurrence européenne sont-elles dépassées face à la montée en puissance des géants industriels chinois ? Faut-il créer des champions européens à tout prix ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Jean-Marc Daniel nous plongera dans les principes de l'économie politique et de l'impôt de David Ricardo. Trois invités en studio pour parler des débats autour des noces d'Alstom et de Siemens. Bonjour Vincent Charlet.
Bonjour.
Vous êtes délégué général du think tank La Fabrique de l'Industrie. À vos côtés, Laurent Aymar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste chez MAP, un cabinet de conseil en économie de la concurrence, et vous dirigez le bureau de Bruxelles. Et enfin, David Bosco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit à l'université d'Aix-Marseille, directeur de l'Institut du droit des affaires et auteur de Droit européen de la concurrence, entente et abus de position dominante, paru aux éditions Bruylant. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
C'est une opération formidable pour les deux groupes. Hein. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de rapprocher deux grands du monde ferroviaire, et il nous a semblé opportun de joindre nos forces pour créer un leader européen, un leader sur son marché, capable d'innover sur son marché.
Les deux entreprises séparément fonctionnent très bien sur le marché. Ce sont des locomotives sur beaucoup de plans. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas lésés par leur fusion. Le leur, c'est de bâtir l'entreprise la plus robuste possible. Nous sommes donc en train d'évaluer cette fusion. Et le résultat n'est pas encore connu, mais notre rôle n'est pas de nous interroger sur les raisons qui poussent des entreprises à fusionner. Notre rôle, c'est bien de nous assurer qu'elles restent sous la pression de la concurrence, qu'elles restent constamment vigilantes.
Si jamais la Commission européenne devait donner une décision défavorable à cette fusion, elle le ferait pour de mauvaises raisons. Elle le ferait en ayant exigé de Siemens et d'Alstom l'abandon de compétences et de technologies qui sont tout simplement déraisonnables. Ça sert à rien de demander une fusion si c'est pour que Alstom et Siemens se débarrassent de leurs technologies, leurs savoir-faire les plus performants. Ça serait pas simplement une erreur économique. Ce serait une faute politique.
Voilà, on a entendu Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, puis la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, et enfin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Alors on va parler des arguments soulevés par les uns et les autres, mais d'abord, quelles sont les bases de l'accord de fusion entre Alstom et Siemens, Vincent Charlet ?
Bonjour, on a effectivement deux groupes européens, donc concurrents, qui interviennent sur le même marché, qui se projettent chacun sur les différents marchés mondiaux et qui voient leur avenir menacé sans doute par l'apparition d'un nouveau géant, chinois en l'occurrence. Ces deux groupes se portent bien et préfèrent envisager un mariage, une alliance à cette période où leur sécurité économique n'est pas menacée. Ils envisagent donc de se rapprocher pour former un nouveau conglomérat.
L'idée, c'est qu'ils se hisseraient au deuxième rang mondial des fabricants de trains, métros et autres tramways. Oui. Mais il y a de grandes chances que la Commission européenne mette son veto, entre autres parce qu'elle redoute que la fusion entre Alstom et Siemens étouffe la concurrence en Europe et défavorise en bout de chaîne les consommateurs. Ça semble en effet un risque réel, Laurent Aymar.
Oui, alors effectivement, de point de vue de ce que dit la Commission, c'est que Alstom et Siemens sont aujourd'hui en Europe présents sur un certain nombre de marchés et parmi les principaux acteurs sur ces marchés. Et on sait bien que la concurrence est l'aiguillon qui permet aux entreprises, enfin qui force un petit peu les entreprises à innover, améliorer leur offre pour les consommateurs, baisser leurs prix. Et ce que craint la Commission européenne, c'est que sur ces marchés sur lesquels Siemens et Alstom sont aujourd'hui très présents, une fusion conduirait à une réduction de concurrence, une réduction de ces incitations à agir d'une manière qui est favorable aux consommateurs européens.
Alstom Siemens aurait plus de 90% de parts de marché dans certains pays comme la France, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Et la Commission européenne, en l'occurrence, n'est pas la seule à s'inquiéter. David Bosco, plusieurs autorités de régulation en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, mais aussi en Allemagne, ont émis des doutes vis-à-vis de cette fusion.
Oui, c'est vrai, cet accord ne fait pas l'unanimité parmi les autorités de concurrence. L'autorité française n'a pas eu son mot à dire dans cette affaire, mais on observe que l'autorité allemande, alors qu'il s'agit d'un accord qui est supporté par le gouvernement allemand, s'inscrit en faux de cet accord.
Ça donc montre... un allié de poids pour la Commission européenne.
Oui, c'est-à-dire, oui, c'est un allié de poids. Il faut avoir, en tant que Français, on a un tropisme qui est de voir le mariage entre Siemens et Alstom sous l'angle d'une analyse française, mais il faut bien se dire qu'il va y avoir des acheteurs dans toute l'Europe. Et le fait qu'il y ait un seul opérateur désormais qui, par exemple, vende des wagons, ça réduit la concurrence, ça réduit l'offre.
En l'occurrence, Margrét Vestager a demandé des concessions à Alstom et Siemens, mais elle a jugé insuffisants les remèdes qui lui ont été proposés. Alors, est-ce à dire que les exigences de la Commission sont trop importantes, Vincent Charlet ?
Je pense surtout qu'il y a deux plans d'analyse assez différents. Et d'ailleurs, ça a été bien rappelé dans le sujet tout à l'heure. Il y a la question interne à l'Europe, où on sait bien que la concurrence joue un rôle essentiel dans le maintien de la compétitivité pour les consommateurs, bien sûr, mais aussi pour les acheteurs privés. C'est-à-dire que c'est pas uniquement vous et moi, c'est aussi les entreprises qui ont besoin d'acheter des prestations de transport, par exemple, ou les collectivités territoriales qui ont besoin d'acheter des équipements. Bon. Et puis, il y a la question sur un plan international. Et on peut quand même se demander si le monde n'a pas changé un peu. Je pense que des institutions multilatérales comme l'OMC ont été mises en place pour réguler une marche du monde, d'un monde libéral, dans les deux sens du terme, démocratique et reposant sur une économie de marché. On peut se demander si aujourd'hui les grands blocs, les grandes puissances dans le monde ne fonctionnent pas sur un nouveau schéma, moins coopératif, et si l'Europe se trouve pas un peu face à un dilemme, face à un choix entre le maintien de cette logique libérale sur ses marchés intérieurs et la nécessité peut-être d'être davantage sur la défensive, voire en position de riposte ou de réplique face à ses concurrents internationaux.
Les débats se concentrent beaucoup autour de cette question de la menace chinoise. Vous avez cité la concurrence du géant chinois CRRC, qui est numéro un mondial du secteur, oui, et qui est déjà deux fois plus lourd qu'Alstom et Siemens réunis. Mais alors, quelle est la réalité de cette menace chinoise? Il y a beaucoup de désaccords autour de cette question, Laurent Aymar.
Au niveau mondial, effectivement, CRRC est un acteur qui est extrêmement important, beaucoup plus important que ne le seraient Alstom et Siemens réunis. Mais ce qu'on voit là, c'est quelque chose qui est lié à la manière dont la Commission européenne analyse ce type d'opération. La Commission européenne se focalise sur les marchés européens, et c'est ce qui lui est reproché à un certain nombre d'égards, mais se focalise sur les marchés européens puisque son objectif est de défendre l'intérêt des consommateurs européens. Et ce que dit la Commission européenne aujourd'hui, et là c'est issu d'une analyse factuelle, examen des documents internes des partis, des données sur les appels d'offres, etc. Ce que dit la Commission européenne, c'est qu'aujourd'hui la menace que représente CRRC en Europe sur les marchés européens est une menace qui est très limitée.
Elle a répondu juste à quelques appels d'offres en Europe de l'Est, par exemple.
Exactement, mais en étant finalement assez éloigné, disons, de la frontière que peuvent représenter Alstom et Siemens aujourd'hui, et ne représentant pas une menace aujourd'hui et un horizon très proche, disons, suffisante. Et ce qu'on voit dans les arguments de la Commission d'une part et des partis du gouvernement français également, c'est une divergence d'opinion sur quel est l'horizon temporel dans lequel il faut regarder ces opérations.
C'est-à-dire
que la Commission se fonde sur les éléments de preuve qu'elle a entre les mains, et ces éléments de preuve, ils ont très peu ou prou à ce qui s'est passé sur les dernières années et ce qu'on peut prévoir pour les années qui viennent. Maintenant, prévoir ce qui va se passer dans 15 ans, dans 20 ans, c'est très compliqué, et la Commission a beaucoup dans une situation très délicate, puisqu'elle ne peut pas prendre une décision qui va être soumise ensuite à l'examen de la Cour de justice européenne sur la base d'éléments qui sont très incertains de ce type-là.
À l'heure actuelle, le géant chinois ne réalise que 9% de ses ventes à l'étranger. Mais effectivement, on ne sait pas quelles seront ses velléités à l'avenir. Et il y a peut-être un autre élément à prendre en compte, David Bosco. Je voudrais aussi vous entendre là-dessus. C'est le fait que les groupes chinois bénéficient d'importantes aides de leur gouvernement. Donc ça crée une situation évidemment déséquilibrée avec les groupes européens.
Oui, bien sûr. Bien sûr. La difficulté qu'on éprouve dans le commerce mondial, c'est quand on est vertué tout seul. Et comme il a été dit précédemment de manière très exacte, le focus de la Commission européenne est un focus européen, selon des normes européennes. Et donc dans un jeu mondial où certains opérateurs profitent d'un certain nombre de subventions, eh bien, ça pose problème. On peut mettre en écho, on peut faire écho ici au conflit qui oppose régulièrement Boeing à Airbus, où on se renvoie à chaque fois la balle en prétendant que les autres ne sont pas vertueux. C'est un peu la même chose ici.
La Commission estime par exemple qu'il y a d'autres instruments plus adaptés pour contrer les appétits chinois, par exemple le contrôle des investissements étrangers qui a été récemment adopté par l'Union, ou alors l'imposition de règles strictes en matière d'appel d'offres. Donc on voit qu'ici il y a aussi un dilemme autour de la meilleure façon de protéger les intérêts européens, Vincent Charlet.
C'est juste, j'ajoute que il faut aussi se demander de temps en temps si, en plus du consommateur, il n'y a pas aussi le producteur ou le travailleur européen à protéger. On arrive parfois à un point de bascule où la défense de l'intérêt de l'acheteur, du consommateur européen, donc qui passe par l'émulation de la concurrence et le maintien de prestations biens et services compétitifs, attractifs, se fait au détriment de la possibilité du travailleur européen de garder son emploi, ou, j'ajoute ce qui me paraît au moins aussi important, des territoires européens à garder leur base industrielle. C'est-à-dire que c'est une chose de dire la concurrence, la compétition maintiennent ou améliorent, optimisent la croissance du marché européen et donc la création de richesses en Europe, sans doute. En tout cas, la plupart des études économiques vont dans ce sens. En revanche, on sait aussi que c'est pas forcément au profit de tous, ou ça n'est pas sans créer des dissensions et des contrastes qui vont croissant entre des centres industriels hyper compétitifs et des territoires qui se dépeuplent ou qui se creusent. Et donc, je pense que l'appréciation même uniquement sur une base interne à l'Europe des conséquences d'une politique industrielle ou du bien fondé d'une politique industrielle doit aussi prendre en compte la préservation des populations et des territoires qui travaillent tout simplement et, à la production et à la vente.
En l'occurrence, la question des menaces sur l'emploi en France a été soulevée dans le projet de fusion entre Alstom et Siemens. Les syndicats français redoutent que Siemens privilégie les sites et les emplois en Allemagne plutôt qu'en France, et cela malgré les engagements pris par Alstom et Siemens auprès du gouvernement français. Alors, est-ce que les garanties pour protéger l'emploi sont suffisantes? C'est aussi une question qui se pose, Laurent Aymard.
Alors, c'est une question qui se pose. Ça n'est pas une question qui se pose pour la Commission européenne quand elle a à prendre sa décision, puisque, et là, elle ne fait qu'appliquer ce qui est les règles du droit de la concurrence en Europe. L'emploi ne fait pas partie des critères qui sont pris en compte, pas parce que c'est considéré comme un élément qui n'est pas important, mais uniquement parce que il est considéré que ça n'est pas un objectif de la politique de concurrence en tant que telle. C'est quelque chose qui doit être adressé par d'autres biais que la politique de la concurrence. Donc la Commission européenne, elle va se focaliser, comme je disais tout à l'heure, sur les consommateurs européens. Et c'est vraiment cet angle-là qui va être privilégié dans l'analyse.
Parce qu'au-delà des doutes et des inquiétudes soulevées par la Commission européenne, il y a d'autres arguments qui existent contre ce mariage. Pour certains observateurs, la fusion en train de se réaliser serait trop inégale et se ferait au détriment d'Alstom. C'est aussi votre avis, David Bosco?
C'est un sujet qui est controversé, à vrai dire. Et d'ailleurs, j'observe que le gouvernement français a lui-même varié assez régulièrement sur la façon dont on devait concevoir le mariage entre Alstom et Siemens. Bruno Le Maire est aujourd'hui très en soutien du projet. C'était pas le cas il y a quelques années. Et, bon, et là encore, il faut être dans le détail de ce deal pour bien saisir les enjeux.
En l'occurrence, Siemens disposera de la majorité des sièges au conseil d'administration avec seulement 50% du capital de la nouvelle structure. Et il pourra accroître sa participation dans les prochaines années. C'est ça qui est assez critiqué, même si le siège de la future entité est censé rester à Paris, Vincent Charlet.
Certes, mais on a suffisamment d'exemples dans l'histoire récente des groupes allemands ou multinationaux pour rester prudent. C'est-à-dire, j'ai en tête des cas de codécision à l'allemande où les représentants des salariés allemands et les représentants de l'employeur ont décidé de privilégier des sites français au détriment de sites allemands. Ça arrive aussi. Bien sûr, les engagements doivent aujourd'hui être pris pris au pied de la lettre. On sait aussi que la vie des entreprises ne peut pas être devinée d'emblée. Dans tous les pays, qu'ils soient anglo-saxons, rhénans, latins, on a des cas d'engagement qui ont été tenus et d'autres qui n'ont pas pu être tenus. Bon, j'avancerai pas trop sur ce terrain-là.
Et alors, quel regard posez-vous aussi aujourd'hui sur les possibilités que cette fusion survienne vraiment? On voit que hier, Alstom et Siemens ont fait part eux-mêmes d'un certain nombre de doutes à propos de ce mariage. C'est quelque chose d'assez rare, d'assez inédit, Laurent Aymar.
Oui, alors effectivement, les signaux qui ont été envoyés par la Commission européenne depuis maintenant quelques semaines vont à peu près tout dans le même sens, qui est une interdiction de l'opération. Alors on ne peut pas se prononcer de manière définitive parce qu'en fait tout va dépendre de ce que Alstom et Siemens vont proposer comme remède aux préoccupations de la Commission européenne.
Ils en ont déjà proposé un certain nombre, accorder des licences temporaires par exemple pour le Velaro ancienne génération de Siemens ou céder le Pendolino, le train pendulaire d'Alstom, et pour l'instant ça ne semble pas suffisant.
Voilà, pour le moment la Commission a répondu que ces engagements ne lui semblaient pas suffisants pour répondre aux préoccupations de concurrence, et donc toute la question qui est traitée en ce moment, c'est de savoir est-ce que Alstom et Siemens peuvent proposer plus que ce qui a déjà été fait, tout en préservant l'intérêt de l'opération.
Et selon vous, ils le peuvent? Ou est-ce qu'ils risquent de fragiliser justement leur position? C'est ce que sous-entendait Bruno Le Maire, comme on l'a entendu.
Alors il faudrait connaître les détails de ce qui est proposé et ce qui n'est pas forcément connu, puisque c'est des discussions qui ont lieu directement avec la Commission. Ce que dit le gouvernement français aujourd'hui, c'est que d'ores et déjà, ce qui a été proposé représente des remèdes très importants qui affaiblissent d'ores et déjà l'opération telle qu'elle était conçue au départ. Et ce que le gouvernement français laisse entendre, c'est que aller plus loin remettrait en cause l'intérêt du rapprochement et la possibilité pour Alstom et Siemens d'effectivement pouvoir faire face aux concurrents chinois qui représentent selon eux la principale menace.
Oui, on a lu dans la presse des formules venant des partis qui disent de manière assez imagée que le mur est trop haut et que les exigences de la Commission ne pourront pas être satisfaites. Donc il semblerait que les partis elles-mêmes laisserait le projet en l'état.
Pour vous aussi, Vincent Charlet, à l'heure actuelle, on peut dire que c'est quand même très peu probable que cette fusion survienne réellement.
C'est ce que tout le monde annonce. En fait, c'est sans doute la partie de l'histoire qui me surprend le plus. C'est-à-dire, on ne peut pas exclure qu'il y ait actuellement une certaine théâtralisation du sujet au moment où justement les équipes vraiment travaillent et négocient. Les parties prenantes donnent de la voix. D'ailleurs, on a beaucoup parlé du gouvernement français, mais Angela Merkel, enfin l'exécutif allemand, soutient aussi le projet.
Plus discrètement.
Elle l'a soutenu, il me semble.
Il y a moins ces prises de position qu'on a vues en France de la part de Benjamin Griveaux, Bruno Le Maire, qui se sont exprimés très, très fortement sur ce sujet. C'est des mots assez forts, une faute politique.
Oui, c'est juste, mais je crois que le vice-chancelier ou même le ministre allemand à l'industrie aussi ont quand même pris fait et cause pour le projet de fusion. Cela étant, donc voilà, on est dans une phase où chacun rappelle et fait monter un peu la pression pour obtenir gain de cause. Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est concrètement mis sur la table et négocié en ce moment même, je ne sais pas si on le saura, c'est-à-dire si les deux parties renoncent en disant « désolé, le mur est trop haut », est-ce qu'on saura ce qu'avait exigé la Commission et ce qu'ils n'ont pas voulu céder? C'est pour moi ça la partie la plus mystérieuse de l'affaire qui est en train de se jouer.
Et alors on parle beaucoup de la possibilité donc de voir survenir cet Airbus du rail, ce railbus. Mais est-ce qu'on peut vraiment répliquer le modèle d'Airbus? Est-ce que l'aérien et le ferroviaire n'ont pas des structures industrielles qui sont trop différentes, finalement, Laurent Aymard?
Alors, est-ce que c'est... Donc, en l'occurrence, je pense que la différence, c'est qu'on a aujourd'hui sur le marché ferroviaire deux acteurs qui sont des acteurs qui sont d'ores et déjà des entreprises avec des technologies qui sont très matures. Ils sont leaders sur un certain nombre de marchés en termes de technologie. C'est des acteurs qui sont d'ores et déjà importants. Et donc, on se situe, on sent dans une situation un peu différente de ce qui pouvait être le cas d'Airbus, où la question n'est pas de savoir est-ce qu'on fait émerger quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. La question est de savoir est-ce que avoir deux entreprises qui ont des technologies très avancées, qui ont déjà une position sur le marché, qui, même si elle est très inférieure à celle de CRRC au niveau mondial, reste quand même très importante. Est-ce qu'on a quelque chose à gagner en les faisant se rapprocher?
Mais alors, pourquoi est-ce que l'exécutif français défend ce projet de fusion à ce point? On peut se poser la question, David Bosco, est-ce que c'est parce que... Enfin, ça a l'air assez étonnant, et notamment parce qu'on a le sentiment que Alstom a les moyens de continuer en solo. C'est ce que disent un certain nombre d'observateurs.
C'est vrai que ces derniers temps ont été très fastes pour l'entreprise française. Les résultats d'Alstom sont tout à fait excellents. De sorte que l'on pourrait penser que, au moins sur le plan européen, Alstom n'a pas besoin du mariage. Mais je pense que le gouvernement français voit plus loin. Et il voit la concurrence internationale, on en parlait à l'instant. Il faut avoir, en tout cas du point de vue de Bruno Le Maire, une politique industrielle européenne qui permettent de projeter un opérateur européen sur la scène internationale. Pour poursuivre la comparaison avec Airbus et Boeing, la situation était très différente à l'époque, puisque Airbus était une sorte de nouvel arrivant. En tout cas, pour Boeing, était très largement dominant, ce qui explique que ce mariage n'avait posé aucun problème à l'époque. Là, on est dans une situation complètement différente, où ce sont deux très importants joueurs du marché, opérateurs du marché, qui souhaitent se rapprocher. Ça pose des questions de concurrence tout à fait différentes.
En tout cas, le chiffre d'affaires 2017-2018 d'Alstom a progressé de 30% en 4 ans, pour atteindre 8 milliards d'euros. Donc, effectivement, Alstom se porte très bien. Et la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que Alstom et Siemens feraient vraiment mieux ensemble, ce qu'ils font aujourd'hui chacun de leur côté, Vincent Charlet?
Je pense que tout dépend de l'horizon de temps qu'on se donne. Un certain nombre de professeurs d'économie expliquent que les fusions-acquisitions sont rarement rentables à un horizon de temps court. Donc si la question est-ce que la somme des deux représentera plus d'emplois, plus de chiffre d'affaires après le mariage qu'avant, à court terme, je ne sais pas. Mais encore une fois, je crois que ce n'est pas ça uniquement la question qui est posée. Il faut quand même se rappeler que, enfin, vous, je sais pas, mais moi, je passe pas une semaine sans croiser quelqu'un qui m'explique que c'est quand même terrible que l'Europe entière ait raté le virage du numérique. Il n'y a pas de Google européen, il n'y a pas de Facebook européen, il n'y a pas... Bon, voilà. On a tous entendu ça plein de fois. Et là, on est face à un projet ou une potentialité de projet pour essayer de garder ou de bâtir un acteur qui continuerait à compter sur le plan mondial. Et on se dit, mais ça se trouve, on fait fausse route ou c'est une mauvaise idée. Et pendant ce temps-là, on nous explique encore que des géants comme Airbus, par exemple, sont menacés ou le seront bientôt par leurs jumeaux chinois qui sont en train d'apparaître. Il y a un moment où je pense qu'il faut sortir de la contradiction.
Alors, Laurent Aymard, sur cette question, et notamment aussi sur le fait que Alstom pourrait songer à une autre fusion, c'est quelque chose de possible, et notamment avec son concurrent canadien Bombardier. Le schéma avait été étudié en 2016-2017 et il avait été abandonné justement au profit du mariage avec Alstom. Mais alors si ce mariage avec Siemens, mais si ce mariage ne se faisait pas, voilà, d'autres possibilités s'ouvrent à Alstom, Laurent Aymard.
Oui, alors effectivement, je pense qu'on revient là sur ce qui est la préoccupation principale de la Commission, qui est de dire... Oui, demain, Alstom et Siemens feraient mieux en termes de chiffre d'affaires, par exemple, si on les laissait fusionner, tout simplement parce qu'ils pourraient augmenter les prix sans avoir à subir la même pression concurrentielle qu'ils subissent aujourd'hui. Et donc, demain, c'est ça qui risque de se passer, une augmentation des prix, une diminution de l'innovation, etc. Et c'est ça la préoccupation et la raison pour laquelle la Commission envisage d'interdire l'opération. Et ce que dit la Commission, c'est que à long terme, finalement, le meilleur moyen pour les entreprises d'être compétitives, c'est justement d'être soumis un peu à cet aiguillon concurrentiel qui va les obliger à toujours essayer de faire mieux, d'innover, d'améliorer leurs produits pour gagner des clients, et que c'est ça qui va faire que les entreprises à long terme seront concurrentielles. Le problème qu'on a dans cette affaire-là, c'est que cette histoire qu'on a envie de raconter sur ce qui fait qu'une entreprise est concurrentielle et à long terme, elle se heurte au fait que en face de Siemens et Alstom, on a des acteurs qui, eux, bénéficient d'un soutien étatique, qui sont beaucoup plus importants et donc qui bénéficient d'économies d'échelle dont ne peuvent pas bénéficier Siemens et Alstom. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce que si on laisse Siemens et Alstom de leur côté, cet aiguillon concurrentiel en Europe va faire qu'ils vont s'améliorer et dans 10 ans être encore plus à même de faire face à la concurrence de CRRC, par exemple, ou est-ce que le seul moyen de leur permettre de faire ça, c'est de les autoriser à fusionner dès maintenant pour leur permettre de bénéficier de ces économies d'échelle et de ce soutien.
On va revenir sur ces différentes questions et aussi sur le droit de la concurrence tel qu'il est appliqué en Europe dans un instant. Giant, Django. Poursuivons notre débat sur les géants européens face au droit de la concurrence et face aux mastodontes chinois en compagnie de David Bosco, Laurent Aymard et Vincent Charlet sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Alors la politique de concurrence est aujourd'hui, on l'a vu dans cette première partie, au cœur des débats européens. Mais alors comment est-ce qu'elle s'est construite? D'abord, elle s'est inspirée, Laurent Aymard, des lois antitrust américaines à l'origine?
Oui, alors effectivement, elles sont inspirées des lois antitrust américaines et c'est une politique qui a été mise en place au moment de la signature du traité de Rome pour une bonne raison qui est que ça a été conçu dès le départ comme un outil d'intégration européenne extrêmement puissant. Et je pense qu'il ne faut pas négliger les bienfaits et les bénéfices que cette politique de concurrence a pu générer. On parlait tout à l'heure de prix plus faibles, d'innovation. On sait encore une fois que ces incitations pour les entreprises de quand elles font face à des concurrents, s'améliorer pour convaincre les consommateurs d'acheter leurs produits plutôt que ceux de leurs concurrents est un moteur extrêmement puissant. Et aujourd'hui, je pense que personne ne saurait remettre en cause le fait que les cartels, les ententes entre entreprises sont des choses qui sont néfastes. Quand la Commission européenne inflige 3 milliards d'euros d'amende à des constructeurs de camions pour avoir retardé l'introduction de camions moins polluants, tout le monde s'en félicite. Et il faut voir que ces bénéfices ils sont effectivement pour les consommateurs, les prix plus faibles, mais aussi pour les entreprises, puisque ça a apporté une sécurité juridique extrêmement importante. Ça a permis aux entreprises en Europe de bénéficier d'un accès au marché qui était non discriminatoire, par exemple. Et tout ça voilà, a bénéficié à la fois aux consommateurs et aux entreprises. Alors, il ne faut pas avoir une vision idyllique en disant que plus de concurrence est toujours mieux, mais en même temps, voilà, ces bénéfices-là, c'est ceux qui étaient poursuivis avec la mise en place de la politique européenne de concurrence.
Donc, toute la question, ça va être où est-ce qu'on place le curseur, et c'est intéressant de voir qu'en effet, la chasse à tout ce qui ressemble à un abus de position dominante est véritablement dans l'ADN du marché unique. Ça, c'est quelque chose qui compte, David Bosco.
Oui, Laurent Aymard rappelait que l'antitrust, donc l'abus de position dominante, les ententes, datent de 1957. On a introduit un contrôle des structures, un contrôle des concentrations, qui est ici concerné par la fusion entre Alstom et Siemens, un petit peu plus tard, en 1989. Le but de ce contrôle, c'est vraiment de vérifier que l'accumulation de pouvoir sur un marché ne va pas créer une domination qui peut être à l'origine de préjudices pour les entreprises et pour les consommateurs. Donc, l'abus de position dominante peut exister aussi, mais nous avons aussi un instrument pour vérifier qu'il ne se constitue pas des géants sur le marché européen qui menacent l'innovation et qui menacent les prix bas. Et il est précisément question de ça ici. Il faut rappeler simplement que la Commission fait usage de ses prérogatives en matière de concentration de manière très prudente. Il est très rare que la Commission interdise une opération de concentration ou même qu'elle soumette une opération à des conditions.
Alors ça, c'est effectivement important à souligner. Laurent Aymard, vous vouliez réagir ?
Oui, tout à fait, parce que non seulement il est très rare que la Commission interdise une opération de concentration, il y a eu 7 interdictions sur les 10 dernières années, mais il faut voir aussi que ces interdictions s'appliquent indifféremment de la nationalité des entreprises. La Commission a déjà, par le passé, interdit des fusions entre entreprises qui étaient des entreprises non européennes afin de préserver justement la concurrence en Europe. Une affaire très connue est l'affaire GE Honeywell qui avait été autorisée aux États-Unis et que la Commission a interdite. Il faut voir que voilà, cette idée selon laquelle il faut préserver la concurrence et s'applique indifféremment, disons, que les entreprises soient européennes ou non européennes.
Alors vous le disiez, la Commission européenne se défend en disant que depuis les années 90, ses services n'ont bloqué que 27 opérations et en ont approuvé 6000. On pense par exemple au mariage entre Peugeot et Opel ou entre Safran et Zodiac. Donc on a le sentiment effectivement qu'on est loin d'un blocage systématique, et pourtant les critiques qui sont adressées, en particulier effectivement à ce contrôle des concentrations, ne sont pas nouvelles. Ces critiques, elles existaient déjà beaucoup dans les années 2000. À quand est-ce qu'on peut faire remonter un certain nombre de réticences, de doutes autour de ce droit à la concurrence tel qu'il est appliqué en Europe ?
Je crois que l'accord se fait, en général, dans les milieux économiques pour penser que le contrôle des concentrations est utile. Et d'ailleurs, l'Europe, comme toutes les grandes zones économiques du monde pratiquent ce contrôle des concentrations. Les critiques interviennent quand il y a un sujet de politique industrielle qui vient se mêler à ces considérations de concurrence. Alors, c'est vrai, depuis le début des années 2000, il y a eu quelques... Alors, je pense à 2001-2002, où il y avait eu effectivement 5 interdictions la même année et une année suivante. Évidemment, les milieux économiques s'en étaient émus. J'ajouterais que les milieux politiques aussi peuvent s'en émouvoir, parce que on voit là des autorités administratives qui bloquent des opérations économiques sur des critères objectifs, des critères économiques, et quelque part, le pouvoir politique, le pouvoir de politique économique, leur échappe quelque peu. Et la virulence de Bruno Le Maire à l'égard de la Commission européenne, et même sur le plan interne de l'autorité de la concurrence à certains égards, s'explique aussi par cela, par le fait que le pouvoir politique se sent parfois un peu dépossédé du pouvoir sur l'économie.
Laurent Aymard.
Oui, effectivement, et ça, je pense que c'est quelque chose qui avait été conçu tel quel dès le départ, justement pour favoriser cette intégration européenne. L'idée était de pouvoir appliquer cette politique de la concurrence en s'affranchissant des intérêts nationaux qui pourraient perturber un petit peu des décisions qui seraient collectivement bénéfiques, mais qui se ferait au détriment d'un pays. Et donc, pour éviter cette interférence des États, dès le départ, la politique de concurrence a été conçue comme quelque chose qui devrait s'appliquer dans un cadre légal. Les décisions de la Commission, même si c'est des décisions du Collège de commissaires, quand ce sera le cas dans l'affaire Siemens-Alstom, sont soumises au contrôle de la Cour européenne de justice. Et donc, c'est des décisions qui se prennent dans un cadre juridique. Et ce sont des décisions dans lesquelles le fait politique intervient, mais de manière relativement éloignée.
Est-ce que vous diriez, David Bosco, que les critiques ont évolué par rapport au début des années 2000 ? Est-ce que de nouvelles critiques ont émergé vis-à-vis de cette politique de la concurrence ?
Les critiques vis-à-vis de la politique de concurrence évoluent. On en a un peu une trace aujourd'hui. D'abord parce que le contexte international peut changer. Et on en parlait tout à l'heure avec l'opérateur chinois qui, d'une certaine manière, ne joue pas avec les mêmes cartes que les autres. On a aussi une critique vis-à-vis de la politique de concurrence parce qu'on a le sentiment parfois que nous avons un environnement économique, et notamment dans le secteur des nouvelles technologies et du numérique, qui est en mouvement et que le droit de la concurrence n'est plus à même de saisir ces nouveaux phénomènes. Je suis assez réservé sur ce point-là, mais très souvent, quand on a envie de faire passer une idée, on accable le droit de la concurrence. Alors, par exemple, Bruno Le Maire dit qu'il est devenu obsolète. C'est une critique un peu facile, je crois.
Vincent Charlet, sur ces critiques et notamment sur ce caractère obsolète peut-être du droit à la concurrence.
Alors, moi je ne suis pas juriste et encore moins spécialiste du droit à la concurrence. Je ne suis pas bien placé pour savoir si le droit est obsolète ou pas. Je dirais juste une chose. Dans le contexte que nous traversons actuellement, je ne vais pas blâmer les responsables politiques d'essayer de réconcilier l'ensemble de leurs électeurs ou des travailleurs, qui sont les mêmes, avec l'idée d'aventure européenne au sens positif du terme. Ça ne se substitue pas entièrement à une analyse plus technique des bienfaits économiques pour le consommateur ou les entreprises acheteuses de telle ou telle fusion, bien sûr. Mais enfin, on ne peut pas occulter totalement cet aspect-là. On est quand même dans un environnement un peu chahuté où encore une fois, initiative positive en faveur d'une construction européenne ne ferait pas de mal. Et je pense qu'il y a des bénéfices sociétaux à la construction de grandes aventures. Alors, elles peuvent être sur le terrain culturel, et évidemment, tout ne doit pas passer par la politique industrielle.
Mais c'est un signal politique important à quelques mois des élections européennes.
Bien sûr, et j'ajoute que à l'extérieur de l'Europe, je le redis, il se développe des pratiques. Je pense notamment à l'extraterritorialité de la justice américaine qui peut être mise à profit par le gouvernement américain ou par les entreprises américaines pour régler des affaires de concurrence de façon assez brutale. Bon, que les responsables politiques tirent un peu une sonnette d'alarme en disant peut-être que notre droit là est un tout petit peu limite, ça me semble légitime. En tout cas, le débat mérite d'être posé.
Est-ce que vous diriez, Vincent Charlet, que la naissance de nouveaux poids lourds européens a pris du retard à cause précisément de ce droit à la concurrence ? On a vu que finalement il n'y avait pas tant de fusion que cela qui avait été empêchée par la Commission européenne.
Oui, je reste sur cette impression. J'ai lu les mêmes chiffres que vous, 6000 contre 27, donc c'est difficile à contester. Je me souviens aussi des rapprochements autorisés Sanofi-Aventis. Je pense effectivement que la construction de géants, comme on dit, ou de champions, n'a pas été tant retardée que ça pour des raisons dogmatiques. En revanche, je pense que une réflexion au plus haut niveau sur ce que pourrait être une politique industrielle commune a manqué et jusqu'à une date récente manquait encore.
Alors, en l'occurrence, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Laurent et Marc, qu'on manque de poids lourds européens, à la fois dans le ferroviaire, mais peut-être aussi dans les réseaux électriques, les centrales nucléaires, les équipements de télécommunications ? Quelles seraient dans ce cas les autres raisons, les autres explications à l'absence de l'avènement de ces géants-là ?
Alors, il peut y avoir beaucoup d'explications différentes. C'est vrai que la plupart du temps, ce qui est mis en avant, c'est le fait qu'il y a très peu de très grandes entreprises technologiques en Europe aujourd'hui. L'idée selon laquelle ce serait le droit de la concurrence qui est à blâmer pour ces évolutions, et comme ça a été dit tout à l'heure, me semble un petit peu facile dans le sens où, certes, certaines opérations sont interdites, mais comme on l'a dit, c'est très peu. Il y a des domaines dans lesquels la Commission européenne a autorisé des opérations. L'année dernière, une opération entre Essilor et Luxottica, qui est le leader mondial de l'optique, n'a pas soulevé de difficultés. Ce que la Commission européenne et ce que le droit de la concurrence interdit, c'est les opérations qui sont fondées sur une logique, disons, qui aurait plus trait à une question de souveraineté économique que de gain d'efficacité ou d'amélioration, disons, la compétitivité des entreprises. Mmh. Et là, effectivement, une opération qui se ferait au détriment des consommateurs européens par une réduction de concurrence, mais qui répondrait à des objectifs de souveraineté économique, est une opération qui, en théorie, serait interdite par la Commission européenne. Je pense que ce que les réactions politiques soulèvent aujourd'hui, c'est cette question de savoir, à partir du moment où d'autres pays, la Chine, les États-Unis, eux, ne se posent pas ce genre de questions et prennent en compte ces questions de souveraineté économique. Vraiment, d'autres pays le font. Est-ce que l'Europe n'a pas à le faire également ?
David Bosco.
Oui, j'ajoute que c'est un peu injuste de dire que l'Europe est à l'origine, ou le droit de la concurrence européen est à l'origine d'un manque de champions européens. Je crois que, en réalité, pourquoi les Américains et les Chinois peuvent faire des géants ? Parce qu'ils ont un terrain de jeu qui est beaucoup plus vaste que le nôtre. Quand une entreprise européenne veut grandir, elle fait face à un certain nombre de barrières nationales qui font que le nombre de clients potentiels ou de partenaires potentiels est plus étroit.
Et notamment dans le ferroviaire, l'harmonisation, c'est une question assez compliquée.
Notamment dans le ferroviaire, mais dans beaucoup d'autres industries. Donc, au fond, vous avez fait tout à l'heure écho au débat européen, mais c'est tout à fait ça. Il est question de ça. Si l'on veut vraiment avoir des géants européens, plutôt que de faire du protectionnisme européen, il faut au contraire élargir le terrain de jeu, intégrer l'Europe davantage et faire en sorte que nos entreprises aient, comme les entreprises chinoises et européennes, un bassin de clients et un bassin de consommateurs et de partenaires qui soit beaucoup plus étendu.
Vincent Charlet.
Je comprends les raisons qu'il y a à se méfier d'un mélange des genres entre souveraineté politique et souveraineté économique ou souveraineté industrielle. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Si Airbus... on n'arrête pas de parler d'un Airbus du rail, d'un Airbus de l'intelligence artificielle. Si Airbus est resté comme le parangon de l'aventure industrielle réussie à plusieurs États membres, c'est quand même... à la fois parce que les exécutifs des pays concernés se sont fortement, conjointement impliqués dans l'aventure, et parce qu'en plus, de cet aspect de souveraineté économique ou politique, il y avait aussi un enjeu de souveraineté technologique. C'est-à-dire que c'est pas simplement par la juxtaposition d'entreprises qui disposent de leurs clients, de leurs bases industrielles, etc. Il y a aussi un aspect de compétences technologiques, de portefeuille de brevets qui rentre en ligne de compte. Et il est difficile de rechercher la réalisation d'entreprises en situation d'innovation technologique ou de capacité à proposer des solutions avancées sans en même temps concéder qu'elles vont disposer d'un pouvoir de marché un peu supérieur à ce qui existait précédemment.
Alors on arrive presque au terme de cette émission, mais je voudrais vous demander peut-être, pour conclure, si à l'heure du protectionnisme américain et du colbertisme à la chinoise, dont on parle beaucoup, l'Europe doit aujourd'hui peut-être revoir ce droit à la concurrence et défendre davantage ses champions ou permettre d'en créer de nouveaux, Laurent Aymard.
Alors, je pense qu'il peut y avoir certainement des débats tout à fait utiles sur la grille d'analyse qui est utilisée par la Commission européenne. On évoquait tout à l'heure l'horizon temporel qui est pris en compte dans ces opérations. Maintenant, revenir à une situation dans laquelle les États seraient derrière la construction des filières industrielles me semble pas nécessairement le plus à même de créer une industrie européenne à même de concurrencer les autres acteurs.
La Commission doit en tout cas rendre son avis sur la fusion Alstom-Siemens au plus tard le 18 février. On suivra tout cela de près. Merci beaucoup à tous les trois, à David Bosco, à Laurent Aymard et Vincent Charlet de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle votre livre, David Bosco, Droit européen de la concurrence, paru aux éditions Bruylant. Merci beaucoup. Il est 14h44 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, c'est sur l'œuvre maîtresse de David Ricardo, « Des principes de l'économie politique et de l'impôt » que nous avons choisi de revenir. Un ouvrage publié en 1817, devenu un classique de la littérature économique. Et pour nous éclairer sur la pensée de celui qui est considéré comme le père du libre-échange, nous avons invité Jean-Marc Daniel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et professeur à l'ESCP Europe. D'abord, dans quel contexte politique et économique David Ricardo, qui naît en 1772 à Londres, écrit-il cet ouvrage ?
Si on veut bien caractériser l'époque, il y a trois éléments qui jouent dans cette époque-là. Le premier élément, évidemment, c'est la fin des guerres napoléoniennes, c'est le fait que la Grande-Bretagne a gagné, mais elle a très rapidement l'impression qu'elle est en train de perdre sa victoire. Elle s'oppose à ses alliés et elle se pose des questions sur sa capacité à rétablir une forme de prospérité dans le pays. Il y a des émeutes, il y a des difficultés économiques, donc il y a une interrogation sur la portée de la victoire. Le deuxième élément, c'est que derrière cette victoire, il y a eu l'affirmation de la noblesse anglaise qui détient les terres, et donc cette noblesse anglaise a obtenu pour maintenir sa production élevée de blé et de céréales, a obtenu qu'il y ait des droits de douane très élevés, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on garde ces droits de douane ou est-ce que effectivement on rétablit le commerce, notamment avec la France qui est l'ennemi historique. Et puis le troisième élément, c'est que sur le plan plus politique, le clivage traditionnel du XVIIIe siècle entre les Whigs et les Tories commence à perdre de sa pertinence et de sa valeur. On a du mal à savoir pourquoi certains sont Tories, pourquoi certains sont Whigs. Et donc, un des enjeux du livre, c'est d'essayer de sortir de cette période de doute, à la fois politique et économique, et de donner des instruments à l'État et au gouvernement pour améliorer la situation économique.
Alors, dans le conflit qui voit s'opposer les agriculteurs britanniques aux industriels, David Ricardo prend position, en effet, et il prend le parti de ceux qu'il appelle les capitalistes contre les propriétaires fonciers qui redoutent de voir leur rente diminuer si l'on ouvrait les frontières. Mais en tout cas, on peut voir qu'à travers cet événement s'inscrit vraiment cette analyse de la valeur d'échange et de la répartition que Ricardo va développer dans son ouvrage.
Oui, ce qui est important dans ce que fait David Ricardo, c'est d'abord, il s'inscrit dans la logique intellectuelle de ce qu'avaient été les économistes précédents, qui étaient des Français, qui étaient les physiocrates. Et il va à la fois dire qu'il s'appuie sur leur vision de l'agriculture, sur le rôle de l'agriculture, sur le rôle du prix de la nourriture, sur le rôle du développement économique autour de la gestion de la propriété foncière. Mais il dit qu'ils ont oublié une chose qui est le fait que cette agriculture est à rendement décroissant. C'est-à-dire que les terres n'ont pas la même valeur ni la même capacité de production dans le bassin de Londres, qui est relativement fertile, ou au fin fond de l'Écosse, où il y a des Highlands qui sont peu fertiles. Et la deuxième chose que les physiocrates ont mis en avant, c'est la nécessité de faire de la concurrence. Or, cette différenciation de fertilité fait que, en réalité, le propriétaire terrien du bassin de Londres n'est pas véritablement en concurrence avec le personnage qui a des terres en Écosse. En revanche, le capitaliste, il est en concurrence avec un autre capitaliste, et le salarié, le travailleur est en concurrence avec un autre salarié. Et donc il dit qu'il y a déjà une première distorsion dans l'activité économique entre ceux qui sont en concurrence et ceux qui ne sont pas en concurrence. Et donc effectivement, le libre-échange, c'est un moyen de mettre le propriétaire terrien en concurrence avec d'autres propriétaires terriens, sachant qu'effectivement, sur le plan politique, le propriétaire terrien qui va venir concurrencer l'anglais, c'est un Américain, et les États-Unis ont fait la guerre à l'Angleterre en 1812, c'est un Français, et Napoléon, je n'insiste pas là-dessus. Donc, il dit qu'il faut sublimer cette réticence politique parce qu'il y a un outil économique qui est l'outil à privilégier, qui est la concurrence. Et le deuxième élément qui mène avant, c'est qu'effectivement, le propriétaire terrien, c'est un noble, c'est quelqu'un qui a un passé, mais qui n'a pas d'avenir. C'est quelqu'un qui a un passé glorieux, et là, il reconnaît qu'effectivement, c'est lui qui a vaincu Napoléon. Et ça, on ne rendra jamais assez justice à la noblesse anglaise d'avoir débarrassé l'Europe de celui qu'il qualifie de monstre. Et puis, le salarié, c'est l'homme du présent, et il est incapable de prendre une vision un peu d'avenir. La force du capitaliste, c'est que lui, il anticipe l'avenir, il prépare l'avenir. Et donc, il dit, il y a un outil, la concurrence. Cet outil, il faut le mettre à la disposition du capitaliste, parce qu'il est l'avenir. Et c'est la combinaison entre ces deux qui va permettre le développement économique.
Et Ricardo obtiendra d'ailleurs gain de cause, mais seulement après sa mort, puisque les lois protectionnistes en Angleterre seront finalement abrogées, mais seulement en 1847, donc soit plus de 20 ans après sa mort. Alors David Ricardo est aussi resté célèbre évidemment pour sa théorie des avantages comparatifs, même si l'expression n'apparaît pas comme telle dans son œuvre. Il démontre que la spécialisation internationale est préférable à la situation dans laquelle chaque pays couvre l'intégralité de ses besoins. C'est le point de départ de la théorie orthodoxe du commerce international telle qu'elle est encore enseignée aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la concurrence au départ, elle a comme objectif de privilégier le capitaliste, mais ce qu'il va démontrer, c'est que tout le monde en bénéficie. Qu'il s'agit effectivement de choisir sur le plan à la fois politique et économique la classe qui est porteuse de l'avenir, mais il s'agit aussi sur le plan éthique de choisir une politique qui favorise tout le monde. Et il dit en fait le libre-échange, ça favorise tout le monde parce que ça permet à chaque pays de se spécialiser dans l'activité où il est le plus efficace.
Un autre grand apport de David Ricardo, c'est sa théorie de la monnaie. Il a été au cœur de la bataille sur la convertibilité de l'or. Je rappelle que la Banque d'Angleterre avait suspendu la possibilité de convertir la livre en or en 1797. Et pour Ricardo, il s'agissait là de la principale cause de l'inflation. Il va fermement s'opposer à cette mesure, Jean-Marc Daniel.
Oui, absolument. Il va considérer que la monnaie de référence, ça doit être l'or et que la politique monétaire doit s'asseoir sur la gestion du stock d'or et sur une parité fixe entre la valeur de la livre et la quantité de monnaie mise en circulation et le stock d'or de la Banque centrale. Alors, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est qu'il va s'opposer par ce biais-là à son père. Et donc, il a un rapport assez compliqué avec son père, Isaac Ricardo. Isaac Ricardo rompt avec lui parce que Isaac Ricardo appartient à une famille juive très pratiquante et Ricardo épouse une chrétienne. Et donc, son père considère que c'est une trahison. Et donc, c'est aussi une occasion de régler de façon un peu freudienne des comptes avec son père. Et puis, la deuxième raison, c'est que dans l'inflation qui va suivre les guerres napoléoniennes et qui s'incruste au niveau des guerres napoléoniennes, il va toujours dire que l'enjeu, c'est quand même de préserver la monnaie, qu'il faut éviter les banqueroutes. Et pour ce faire, il faut garder une forme de confiance que seul l'or inspire. Et il dit, l'or, c'est pas par hasard que finalement il est devenu la monnaie de référence, parce que l'essentiel de l'activité économique, c'est notamment sur le plan industriel, c'est du charbon, c'est une activité minière, et l'or s'obtient aussi par cette activité minière. Et donc, quand l'industrie se développe, le charbon augmente et les techniques qui permettent l'augmentation de la production de charbon vont permettre l'augmentation de la production d'or. Donc, on aura toujours suffisamment d'or pour réaliser les échanges dont on va avoir besoin.
Et à partir de 1844, la Banque d'Angleterre va être obligée de limiter l'émission de ses billets au montant de son stock d'or, ce qui finalement donne raison à Ricardo.
Absolument. Ce qu'il y a d'intéressant dans la démarche de Ricardo, c'est que il s'engage à titre personnel en politique. Il se fait élire dans un bourg pourri, comme on disait. Donc, il se fait élire avant la réforme électorale de 1832. Il a 12 électeurs. C'est en Irlande. Donc, il y a très peu d'électeurs en Irlande, puisque à l'époque, les catholiques n'ont pas le droit de vote. Et il ne se rend jamais dans sa circonscription. Il leur envoie une lettre pour indiquer quel est son programme et tout ça. Et donc, il participe aux travaux du Parlement et il intervient très peu. Assez vite, on s'aperçoit qu'il est assez timide et que l'idée de parler en public le bloque. En revanche, il va inspirer et influencer un certain nombre de parlementaires, et notamment une partie d'un bloc au sein du parti Tory, alors qu'il est plutôt proche des Whigs. Et cette influence va se concrétiser au travers d'un personnage essentiel qui est Gladstone, qui va être un des grands premiers ministres du 19e siècle anglais et qui, sur le plan économique, va s'afficher, se définir comme étant son disciple.
Et alors, pour revenir à sa méthode et peut-être notamment à son écriture, on a beaucoup dit qu'il était difficile pour lui à décrire, qu'il avait dû prendre un certain nombre de conseils et aussi qu'il avait été peut-être l'un des premiers à appliquer cette méthode hypothético-déductive qui va s'imposer ensuite au XXe siècle.
Oui, absolument. Ce qui est intéressant dans la démarche de Ricardo, d'abord, c'est que comme son père est encore une fois un juif très attaché aux valeurs de la religion juive, son père, quand il veut l'envoyer dans un collège, découvre qu'il y a des crucifix dans les salles de classe. Et son père dit, il n'est pas question que mon fils soit élevé dans des lieux où il y a la représentation permanente de cette religion qui n'a cessé de nous persécuter. Donc c'est un autodidacte, en fait. C'est son père qui va lui apprendre à lire, à écrire, qui va faire venir des personnes de la communauté juive. Mais donc il a un rapport à l'anglais qui est assez difficile. Il n'est pas forcément assez très à l'aise dans l'expression en anglais. Et la deuxième chose, c'est qu'il est convaincu que l'économie, pour s'affirmer, doit avoir une structure scientifique. D'ailleurs, de ses disciples, William Nassau Senior, qui sera le premier professeur d'économie de l'histoire, quand il remet sa candidature aux autorités universitaires, dit « on peut enseigner l'économie parce que l'économie, c'est une science ». Et donc, c'est neutre, donc on peut tout à fait avoir un cours d'économie dans un dispositif universitaire. Et quelle est la science de référence? Ce sont les mathématiques. Ils réfléchissent, on ne peut pas faire de la physique, parce que la physique, ça suppose des expériences, et sur les hommes, sur les groupes sociaux, on ne peut pas faire d'expérience. Donc, on va organiser la pensée économique comme les mathématiques. Et donc, il met en place, effectivement, ce système hypothético-déductif. En plus, on est dans une phase où ce système aussi est assez présent dans l'enseignement en Angleterre, puisque on enseigne encore la logique d'Aristote et tout ça. Et donc, la lecture de Ricardo, effectivement, est assez délicate, quelquefois un peu fastidieuse, parce que ça commence toujours par « je fais une hypothèse ». Donc, il décline la liste des hypothèses. Ensuite, il enchaîne son raisonnement, un peu comme un théorème, et il dit « voilà, c'est QFD, c'est ce qu'il fallait ». Alors, en fait, il ne lui dit pas CQFD, il dit QED, quod erat demonstrandum, voilà ce que je voulais démontrer, et je suis arrivé à cette... Et effectivement, notamment au début du XXe siècle, un certain nombre de gens vont dire, écoutez, cette façon de s'exprimer a quand même largement vieilli.
Vous l'avez dit, Jean-Marc Daniel, son analyse du capitalisme naissant a orienté l'ensemble de l'économie politique au XIXe siècle. Quel est aujourd'hui l'héritage de la pensée de Ricardo, selon vous, et comment comprendre qu'il soit cité autant par les économistes néoclassiques que par les marxistes?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, effectivement, les marxistes se sont inspirés de lui, parce que Marx lui-même, notamment dans un livre qui s'appelle Critique de l'économie politique, qui est un livre qui est rédigé avec Engels, Marx dit l'économiste de référence est Ricardo. Et donc, si on doit critiquer l'économie, il faut s'appuyer sur Ricardo. Ensuite, il a eu un certain succès parce que un certain nombre d'économistes se sont appuyés sur lui, notamment à partir des années 70, pour contester le keynésianisme. Ils ont considéré que la vision keynésienne était en train d'échouer, que la promesse de croissance était en train de déboucher sur l'inflation.
Keynes, qui était beaucoup plus critique pour le coup sur David Ricardo.
Alors, Keynes avait traité carrément Ricardo de Torquemada. Il avait dit, il a à peu près le degré de pensée, la façon de s'imposer, il s'est imposé à la pensée économique, un peu comme Torquemada avait pris en main le christianisme. C'est-à-dire une vision totalitaire, même si Ricardo a torturé personne, alors que Torquemada est quand même à l'origine de torture. Donc, Keynes était très virulent à l'égard de Ricardo, tout en ayant proposé à Sraffa, qui était un de ses amis, disciples, un économiste italien assez connu qui s'était réfugié en Angleterre, de rééditer les œuvres complètes de Ricardo. Et donc, assez paradoxalement, tout ce que l'on sait maintenant de Ricardo, tout ce que l'on peut utiliser sur Ricardo, c'est grâce à Keynes que l'on a à disposition. Et on s'est beaucoup appuyé à partir des années 70 sur les travaux de Sraffa. Et il y a tout un courant d'économistes américains qui se définissent comme les nouveaux partisans de la nouvelle macroéconomie classique, qui ne sont pas des néoclassiques, hein, c'est nouvelle macroéconomie classique, mais pas, c'est des nouveaux classiques et pas des néoclassiques, c'est assez subtil, et qui remettent en avant Ricardo, et notamment sa vision de la dette, et ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne, et ce qu'on appelle le théorème de Melon-Ricardo, Melon étant un économiste français, pour démontrer que la politique budgétaire est inefficace. Chez Ricardo, il y a quand même cette idée que l'entrepreneur, que le capitaliste, que joue un rôle qui est un rôle que les autres n'ont pas, qu'il y a des gens qui sont plus efficaces, qui sont plus utiles, qui sont plus importants dans le développement économique que le reste de la population.
Et Jean-Marc Daniel, ce sera ma dernière question, mais est-ce que si Marx reprend comme cela Ricardo, c'est parce que Ricardo met finalement le conflit d'intérêts entre travailleurs et capitalistes au cœur du système à travers la relation qu'il établit entre salaire et profit?
Oui, il y a deux choses que Marx va mettre en avant dans la pensée de Ricardo. Il y a cette idée qu'il y a des classes, il y a des groupes, et donc à partir du moment où il y a des groupes, il va y avoir des affrontements. Ces groupes étant structurés, on peut considérer qu'ils vont s'affronter, et si certains ont un rapport positif à l'histoire, c'est que il y en a d'autres qui ont un rapport négatif, et lui il va dire, ceux qui ont un rapport positif à l'histoire, ce ne sont pas les capitalistes, ce sont les salariés, ce sont les travailleurs. Et la deuxième chose, c'est que Ricardo, qui veut se débarrasser de l'obsession monétaire qui avait été celle des premiers penseurs économiques, l'obsession mercantiliste, il faut accumuler de l'or, et dit la monnaie, c'est un voile, un moyen d'échange. Le véritable enjeu, c'est la quantité de travail qu'il y a dans un bien. Le prix d'un objet ne dépend pas de la quantité de monnaie, ça dépend de la quantité de travail que vous mobilisez pour le fabriquer. Et donc, Marx va s'appuyer là-dessus en disant, mais à partir du moment où c'est le travail qui est l'élément déterminant pour évaluer la réalité des biens, ce sont ceux qui détiennent le travail, qui produisent le travail, qui sont les porteurs de l'avenir. Et donc, Marx va dire, vraiment, les capitalistes, ils seront finis, puisque Ricardo lui-même reconnaît que c'est le travail qui est à l'origine de la richesse.
Merci beaucoup Jean-Marc Daniel de nous avoir fait découvrir cette œuvre de David Ricardo. Je renvoie les auditeurs à votre dernier livre, Macron, la valse folle de Jupiter, paru aux éditions de l'Archipel. Un grand merci. Entendez-vous l'écho, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès lundi à 14h pour une nouvelle semaine consacrée au marché de la drogue. On commencera par parler des guerres de l'opium. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.